BFM Business présente...
Tous les jours, j'entends quoi? De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. Mais
vous avez dit qu'il y a un vrai souci, il faut créer de l'emploi.
Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit.
Il suffit d'écouter BFM Business.
Voilà, magnifique.
Guillaume Paul, Audrey Tcherkov, Good Evening Business.
Allez, 18h, soyez les bienvenus comme tous les soirs dans Good Evening Business en direct avec Audrey Tcherkov. Bonsoir Audrey.
Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous.
Alors dans l'actualité ce soir, c'est la grosse machine qui doit nous permettre, enfin on l'espère en tout cas, d'aller au plein emploi en 2027. France Travail, successeur de Pôle Emploi, donc a été présenté ce matin au Conseil des ministres. On va bien sûr beaucoup vous en parler ce soir.
Et puis l'OCDE, de son côté, se montre un peu plus optimiste sur l'évolution de la croissance mondiale pour cette année, puisque sa dernière prévision passe de 2,6 à 2,7%. Révision à la hausse, portée notamment par une baisse de l'inflation. On vous donne tous les chiffres dans un instant.
Et puis, alors, la semaine de 4 jours, c'est qu'on en parle de plus en plus, oui. Plus en plus d'entreprises qui y viennent. Vraie ou fausse bonne idée? On posera la question à un DRH tout à l'heure à 19h15. Puis vous verrez, Caroline Morisseau est allée en immersion chez Accenture. 10 000 salariés, ils ont le choix désormais. 4 jours, si vous voulez. Voilà le programme. Non exhaustif, bien sûr, on est ensemble jusqu'à 20h.
Et tout de suite, c'est le journal.
Good Evening Business, le journal.
Donc oui, quand même, c'est la bonne nouvelle du jour. L'OCDE qui a remis un petit peu ses prévisions à jour et qui est un petit peu plus optimiste pour l'économie mondiale. Bonsoir Nathan Cocampo. Bonsoir. Ça bouge pas beaucoup, mais comme on dit, c'est toujours ça de prix finalement, Nathan. Oui,
un léger mieux porté par un ralentissement de l'inflation autour de 6,6% cette année contre 9,4% l'an dernier. Une économie mondiale qui profite aussi de la reprise de l'économie chinoise. Croissance attendue à 5,4% en 2023. Alors dans le détail, l'OCDE table donc sur une croissance mondiale de 2,7%, 0,1 point de plus par rapport aux prévisions de mars. Et l'OCDE qui tape sur une croissance de 0,9% en zone euro cette année, là aussi en légère hausse de 0,1 point par rapport aux prévisions de mars, 0,8% pour la croissance française. Et à noter, le Royaume-Uni devrait finalement connaître une légère croissance, là aussi de 0,3%, alors qu'une récession était envisagée par l'OCDE précédemment.
Bon, alors cela dit, l'OCDE dit il y a du mieux, mais attention, il y a quand même quelques risques encore à surveiller de près quand même.
Oui, si la croissance mondiale pour 2024 reste inchangée à 2,9%, les petits signaux positifs de ces dernières semaines sont à nuancer. L'inflation va persister à un niveau très élevé dans les prochains mois selon l'OCDE et les hausses de taux des banques centrales qui certes ont permis de ralentir l'inflation ont aussi des effets négatifs avec plus d'épargne et moins de consommation. Pour l'OCDE, la situation économique actuelle impose donc le maintien des politiques monétaires restrictives jusqu'à ce qu'il y ait des signes clairs d'apaisement. L'institution qui encourage aussi les États très endettés à cibler davantage leurs mesures de soutien budgétaire.
Merci beaucoup Nathan, voilà pour ce chiffre de l'OCDE. C'est timide amélioration, est-ce qu'on prend malgré tout ces chiffres, Audrey?
Bien sûr, on prend Guillaume. En tout cas, ce que nous dit l'OCDE finalement, c'est que l'économie mondiale, elle prend un tournant. Elle nous rappelle aussi que lorsque la France se compare finalement, elle se console parce que presque tous les pays ont des déficits et un endettement plus élevé qu'avant la pandémie, que beaucoup sont confrontés aussi à des pressions croissantes sur les dépenses publiques. Et donc, en effet, le message clé, il s'adresse aux États et donc, il faut cibler davantage les mesures de soutien budgétaire.
Voilà pour ces chiffres donc, de l'OCDE dévoilés aujourd'hui. 18h04, le projet France Travail, donc dévoilé ce matin au Conseil des ministres. France Travail qui remplacera Pôle Emploi le 1er janvier prochain, qui a pour but, bien sûr, de faire plus travailler ensemble. Pôle Emploi, les missions locales, les collectivités locales, les associations, on en parlera tout à l'heure dans le grand débat. D'un mot, Audrey, est-ce que pour vous, ça va être plus efficace que Pôle emploi, tout ça, finalement?
Alors, d'un mot, je pense que ça ne pouvait pas être moins efficace. Donc, en gros, on va simplifier le système actuel qui marche mal et qui impacte négativement à la fois les demandeurs d'emploi et les patrons, notamment des TPE, alors que c'est un système qui doit assurer à tout le monde de pouvoir retrouver l'autonomie et de la dignité par le travail.
Franck Morel, l'ancien conseiller social d'Édouard Philippe à Matignon, avec nous dans 5 minutes pour en parler sur BFM Business. Puis ça aussi, on en parle de plus en plus, la semaine de 4 jours. De plus en plus de grands groupes la proposent à leurs salariés. Chez Accenture France, par exemple, la direction la propose désormais à ses 10 000 collaborateurs. Caroline Morisseau est allée voir comment tout ça se met en place en interne. Reportage.
Rien n'est imposé, chaque salarié est libre de choisir sa formule et d'en changer quand il le souhaite. Pour la direction, l'objectif est clair, recruter plus facilement et en croire la DRH d'Accenture en France, Jacqueline Averdros, cela fonctionne.
C'est connu maintenant, donc il y a des candidats qui viennent nous voir spontanément. Bien sûr, il faut rester compétitif sur le marché aussi pour les salaires. Mais ça doit peser au moins aussi important.
Autre effet positif, retenir les salariés. Contrairement à beaucoup d'entreprises, pas de départ massif chez Accenture. Au contraire, le turnover est plus faible qu'avant la crise Covid. Au total, sur les 10 000 salariés, 1 sur 10 a opté pour la semaine flexible. C'est le cas de Nadia, consultante et maman de deux enfants. Elle bénéficie désormais d'une demi-journée par semaine. En contrepartie, elle travaille une heure de plus chaque jour.
Moi, c'est des horaires qui me conviennent absolument par rapport justement à ma vie de maman. Et ça me permet justement d'être, on va dire, plus concentré sur ces horaires, ces temps de travail, puisque finalement nos clients ne sont pas forcément connectés avant 9h. Donc ça m'évite d'être dérangé sur Teams, et donc là je peux rester un peu plus focus sur certaines missions.
Des salariés plus engagés, des candidats plus nombreux et pas de baisse d'activité. Un an après sa mise en place, la mesure semble n'avoir que des avantages et contrairement aux idées reçues chez Accenture en tout cas, cela ne concerne pas seulement les plus jeunes, les seniors eux aussi apprécient de mieux concilier vie professionnelle et personnelle.
Voilà, la semaine de 4 jours, vraie ou fausse bonne idée, adaptable ou pas dans toutes les entreprises? Le vice-président délégué de la NDRH, Benoît Serre, sera avec nous tout à l'heure à 19h15 pour en parler. Le petit coup de pression payant de Clément Beaune, le ministre du Logement, avait demandé ce matin aux sociétés d'autoroutes de faire un geste du côté des péages pour cet été. Résultat, Vinci a annoncé dans la foulée une ristourne de 20% pour ceux qui alimenteraient avec des chèques vacances les fameux badges Ulysse. Vous savez, c'est les fameux badges de télépéage qui marchent de mieux en mieux. Et puis alors, dans une dizaine de jours, lundi 19 juin, rappelez-vous, c'est le début du salon du Bourget. Bonsoir Jean-Baptiste Huette.
Bonsoir Guillaume, bonsoir Audrey.
Pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce que les organisateurs nous ont donné quelques chiffres ce matin. Il y aura 2500 exposants venus d'une centaine de pays. Mais dites donc, ça sent le secteur reparti à toute vitesse là.
Ça fait 4 ans qu'il n'y a pas eu de salon du Bourget, puisque le dernier avait été annulé au dernier moment pendant la crise du Covid. Donc ce salon-là est vraiment le salon de la reprise, avec un salon qui veut enfin définitivement tourner cette page du Covid. Le trafic aérien, on le voit, est remonté à ses niveaux d'avant-crise. Les constructeurs, là, ces derniers mois, croulent sous les commandes. 500 pour Airbus, encore 600 peut-être avec Turkish Airlines aussi pour Airbus, et puis d'autres, enfin des centaines pour Boeing. Donc vraiment, il y en a beaucoup. La plupart des feux seraient au vert si la supply chain, vous savez, la chaîne de sous-traitance fonctionnait correctement, ce qui n'est pas le cas, s'il n'y avait pas de pénurie, et notamment d'emploi. Et en France, cette année, on recherche 25 000 personnes. Donc ça recrute. Et ce sera évidemment l'un des thèmes majeurs de ce salon du Bourget. Autre thème qui va être très largement abordé, c'est évidemment la décarbonation du secteur aérien. On en parle depuis plusieurs années. Les carburants durables, l'électrification, l'hydrogène. Les organisateurs entendent bien aussi tordre le cou à l'avion bashing, la honte de voler. Patrick Daher, ce matin, le commissaire général du salon, a tapé du poing sur la table. Il y en a marre, s'est-il esclaffé. Donc il y a une véritable volonté de communication sur cette question de l'avion bashing. Et puis enfin, plus sérieusement, la guerre en Ukraine et plus globalement la géopolitique, qui vont occuper une très grande place avec des tables rondes, avec des conférences. Et d'ailleurs, on note cette année une présence militaire beaucoup plus forte que d'habitude à ce salon du Bourget, et tout particulièrement les États-Unis qui viennent vraiment montrer leurs muscles avec plus de 400 entreprises qui font le déplacement au Bourget.
Ça nous promet plein de temps fort, plein de belles annonces, plein de belles commandes. Évidemment, BFM Business y sera, 19 juin notamment, BFM Business y sera du matin au soir à ce salon du Bourget. Merci beaucoup Jean-Baptiste. 18h09, on va sur les marchés.
Votre rendez-vous avec Primalliance, expert SCPI et épargne immobilière pour les particuliers et professionnels du patrimoine.
Les marchés, Étienne Brack à Euronext pour BFM Business. Bonsoir Étienne, j'ai l'impression qu'il ne s'est pas passé grand-chose encore ce soir à Paris.
Bonsoir. Ouais, on a vraiment une semaine qui est pour l'instant très calme sur les marchés. Une fois de plus, vous avez un indice qui clôture stable. Et pourtant, eh bien, on a eu des surprises une nouvelle fois du côté des banquiers centraux. Souvenez-vous, hier soir, c'était la Banque Centrale d'Australie qui avait relevé ses taux alors que les analystes attendaient un statu quo. Aujourd'hui, c'est la Banque Centrale du Canada qui a remonté ses taux alors que là aussi, les analystes se disaient non, il y aura un statu quo, rien ne va se passer. Et finalement, c'est une hausse de 25 points de base. Vous voyez un petit peu l'ambiance à une semaine de la Fed. Mercredi prochain, vous allez également avoir la BCE dans 8 jours. Donc on a des marchés qui sont prudents, assez peu de volume, ça se stabilise. À noter qu'il y a une fusée aujourd'hui en Europe, c'est Inditex, la maison mère de Zara, qui annonce des profits records, qui est très confiante pour cette année. Le titre décolle de plus de 6% à Madrid, et dans le sillage, vous avez Unibail Rodamco Westfield qui gagne plus de 3,3%, c'est la plus forte hausse du CAC 40. À noter que les cours du pétrole repartent déjà à la hausse, plus 1,7% pour le Brent au-delà des $77, et donc la Bourse de Paris qui clôture stable ce soir à un cheveu des 7200 points, 7202 points.
Merci beaucoup Étienne. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street, évidemment à la mi-séance. Le Dow Jones, on va voir ça dans un instant. Dans un petit instant, le Dow Jones qui est quasiment stable ce soir, voilà, qui progresse de 0,12%, 33 613 points. Et puis l'indice Nasdaq, de son côté, qui perd 0,66%, 13 189 points, tout ça à la mi-séance. 18h11, c'est l'heure de notre premier invité tout de suite sur BFM Business.
Good evening business, l'invité.
Devinez de quoi on va parler, bien sûr.
Ah bah évidemment, France Travail.
France Travail, bien sûr, parce qu'il a été présenté ce matin au Conseil des ministres, vous savez, ce projet France Travail. C'est l'organisme qui va remplacer Pôle emploi à partir du 1er janvier prochain. On va en parler avec Franck Morel, qui est avec nous en visio quelques instants. Bonsoir, monsieur Morel, avocat associé au cabinet Flichy-Granger, ancien conseiller social d'Edouard Philippe à Matignon. On rappelle la philosophie, c'est faire mieux travailler ensemble. Pôle emploi, les collectivités locales, les missions locales, tous les acteurs du marché de l'emploi aujourd'hui. Si c'est tellement frappé du bon sens, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait depuis toutes ces années pour vous, Franck Morel ?
Parce que chaque structure a sa logique propre et ses missions propres et qu'il est extrêmement compliqué de surmonter justement ces blocages liés à ces particularismes de structure. Alors, c'est tout l'objet et c'est tout le sens de ce projet de loi, mais j'ai envie de dire, il ne suffira pas d'un projet de loi. Il faudra aussi aller beaucoup plus loin dans la pratique, dans l'organisation des relations entre les différents acteurs. On est dans une situation où on est aujourd'hui à 7%, un peu plus, de taux de chômage. Et si on veut atteindre le plein emploi, c'est le pari, effectivement, du gouvernement de mieux faire travailler ensemble les différents organismes.
Oui, mais alors justement, précisément sur ce point, Franck, est-ce qu'il n'y a pas une susceptibilité des acteurs à travailler ensemble? Parce que je vous rappelle qu'il y a une quinzaine d'années, la fameuse fusion entre la CEDIC et la NPE, elle n'a pas été sans accrocs.
Oui, elle n'a pas été simple, mais elle a fini par être réalisée. Mais la situation était un peu différente parce que là, on est face à, je dirais, des collectivités locales d'un côté qui ont des prérogatives spécifiques et qui sont attachées à ces prérogatives et l'État. Alors, on a réussi parfois à les surmonter. Je vais prendre un exemple concret. Ce qui a été fait avec le plan d'investissement dans les compétences il y a quelques années de ça, quand Édouard Philippe était à Matignon, eh bien, c'est une logique de conventionnement qui avait été passée entre les régions qui ont la compétence en matière de formation des demandeurs d'emploi et l'État. L'État mettant au pot le fait de mettre des moyens financiers supplémentaires pour la formation des demandeurs d'emploi sur la base de contrats d'engagement avec les collectivités locales. Là, c'est un petit peu différent parce que là, on n'est pas sur de la gestion de moyens financiers supplémentaires, on est sur la mise en mouvement à la suite d'un rapport extrêmement intéressant qui a été fait par Thibault Gulluy, qui est Monsieur France Travail, d'une certaine manière,
que l'on a reçu sur ce plateau,
ce projet, et bien sur la mise en mouvement de l'action coordonnée des acteurs, et en particulier s'agissant des bénéficiaires du RSA.
Mais Franck, quand même, on nous vend jouer collectif, l'idée de davantage jouer collectif. Quand on regarde sous le capot, on n'arrive pas vraiment à comprendre ce qu'il y a derrière. Jouer collectif, travailler plus étroitement en France, concrètement, ça va se traduire comment sur le terrain, une fois que tout ça sera mis en place ?
Ça va se traduire par une logique de guichet unique, chaque fois que c'est possible.
Vous y croyez, vous, guichet unique ? Certains nous disaient guichet unique, souvent ça se traduit par un guichet de plus à l'arrivée.
Oui, malheureusement, j'espère que ça ne sera pas le cas, effectivement. Mais en tout cas, l'intention, c'est effectivement d'aller vers une logique de guichet unique, avec une entrée dans la tuyauterie, si vous me permettez l'expression, unique, par le biais de France Travail, qui sera en charge de la coordination et la formalisation dans le cadre de la relation entre le demandeur d'emploi, le bénéficiaire du RSA et France Travail, d'un certain nombre d'engagements qui se veulent unifiés, avec un système de sanctions qui est mis en place également et qui est rénové, parce qu'il y a déjà des sanctions qui existent, qui est rénové justement pour faciliter cet accompagnement. C'est ça très concrètement. Mais j'ai envie de dire, ça c'est ce qui est écrit dans la loi. Il faut beaucoup plus qu'une loi, qu'un projet de loi, pour matérialiser effectivement ça. Et c'est pour ça que le vrai rendez-vous, il sera après la création de France Travail, après la mise en place de France Travail, dans les vrais processus opérationnels entre les différents acteurs. C'est là qu'on verra si ça peut vraiment fonctionner.
Mais est-ce que l'idée, c'est de gagner en fluidité ou d'augmenter le nombre de personnes au service des demandeurs d'emploi ? Parce que tout ça, ça reste malgré tout, finalement, comme toujours, une question de moyens humains et de moyens financiers.
L'objectif, c'est de gagner en efficacité, parce que les redondances, le fait que parfois c'est assez obscur, on ne sait pas trop comment ça marche et à qui s'adresser, font perdre beaucoup d'efficacité. D'ailleurs, quand on regarde les quelques chiffres hein, sur le niveau de satisfaction et des entreprises et des demandeurs d'emploi et des acteurs en général hein, vis-à-vis du service public de l'emploi, on se rend compte qu'il y a une marge d'amélioration qui est extrêmement importante. Ce qui est mentionné dans l'accompagnement de la présentation du projet de loi, c'est que par exemple, vous avez seulement 40% des bénéficiaires du RSA qui sont inscrits à Pôle emploi.
Oui.
Donc ça, ce qui est prévu, c'est effectivement une généralisation de l'accompagnement, avec un objectif de faire en sorte que toutes les personnes qui sont en situation de besoin d'insertion soient inscrites à Pôle emploi pour bénéficier effectivement à France Travail, donc futur successeur de Pôle emploi, pour bénéficier de cet accompagnement.
Mais il y a aussi un problème quand même de personnel pour accompagner les demandeurs d'emploi, Franck. Ça, c'est connu aussi, c'est un fait notable depuis des années chez Pôle emploi,
oui,
justement.
Oui. Il y a, alors après, tout dépend de quoi on parle. Si on parle des personnes qui sont en charge de l'accompagnement en tant que tel, ou si on parle des personnes qui sont en charge de la relation avec les entreprises, ou des personnes qui sont en charge de l'application des sanctions, etc., etc. Tout dépend. Il y a eu un certain nombre de redéploiements qui avaient été faits au moment de la mise en place du plan d'investissement dans les compétences. Il y avait eu une rénovation, d'ailleurs aussi, de la question du régime des sanctions, parce que moi, j'ai un regret. J'ai un regret que je voudrais formuler avec vous aujourd'hui, et j'espère que le projet de loi France Travail le permettra, c'est qu'on ne soit pas plus transparent, plus dans le pilotage, justement, par rapport à cette question des sanctions. Mmh. Il y avait eu, il y a quelques années, une étude qui avait été faite, qui avait montré que, précisément, la mise en place des sanctions, la mise en musique des sanctions, était le plus souvent, dans une proportion assez notable de cas, une occasion justement de redynamiser le demandeur d'emploi. Et pas forcément du collectif.
Oui, oui, mais on voit bien que c'est ce qui marche d'ailleurs au Danemark.
Absolument. Et de le redynamiser. Et moi, je fais une proposition qui me paraît très intéressante, c'est de rendre public chaque année, avec un débat éventuellement au Parlement, mais en tout cas au moins rendre public chaque année, les chiffres des sanctions et les chiffres de l'accompagnement. On souffre en la matière d'une opacité que je trouve extrêmement incompréhensible et préjudiciable. C'est un outil de débat, c'est un outil de politique publique.
Puisque vous parlez d'études, quand on regarde les travaux des acteurs de l'insertion, eux disent qu'il faudrait 4 millions d'euros par an pour tenir justement les promesses de ce nouveau projet France Travail. Et dans un rapport commandé et remis à Olivier Dussopt, en avril, l'enveloppe proposée finalement, elle est bien inférieure, puisque là on parle de 2,5 millions d'euros étalé sur 3 ans. Donc,
milliards,
est-ce que ça veut dire.
Milliards,
pardon. Oui. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on va mettre peut-être plus de gens, mais on n'aura pas l'argent pour les former?
Écoutez, utilisons déjà efficacement les deniers publics. Le quoi qu'il en coûte est fini. Bruno Le Maire l'a dit, et il a raison de l'avoir dit, parce qu'on peut toujours être plus efficace, et être plus efficace ne suppose pas forcément toujours mettre plus d'argent au pot. Et le but de ce projet de loi, c'est là aussi de lutter contre les redondances, les doublons. Oui. Et là, il y a sans doute un gain d'efficacité.
Et jouer collectif, véritablement. Bon, on rappelle qu'on parlait tout à l'heure de la fusion des ACDIC et des ANPE. Ça n'a pas été tellement efficient dès le début. Il a quand même fallu quelques années, Franck, pour tout ça se mettre en musique.
Oui, absolument. Oui. Je suis d'accord.
On attendra aussi.
Au total, c'est quelque chose qui a plutôt été bénéfique.
Oui. Merci beaucoup, Franck Morel. Merci d'avoir été avec nous. Avocat associé au cabinet Flichy-Granger, donc ancien conseiller d'Edouard Philippe à Matignon, il y a ça quelques années. Voilà pour ce projet France Travail, dont on va reparler, bien sûr, tout au long de la soirée sur BFM Business, 18h19. Bon, on va reparler dans un instant, d'ailleurs.
Exactement, puisque c'est l'heure du grand débat.
Avec nos débatteurs, évidemment. France Travail, le grand machin, sera-t-il plus efficient? On posera la question. Cette réforme controversée du RSA, et puis...
Et les retraites.
Nous permettre d'aller chercher les 5% de plein emploi. Et les retraites, parce que demain, le texte Liotte arrive à l'Assemblée, bien sûr. Ça fait un beau programme. De quoi disserter dans le bon sens du terme jusqu'à 19h, en tout cas.
À tout de suite.
Good evening business, le débat.
Allez, 18h24, c'est parti pour le grand débat jusqu'à 19h sur BFM Business avec Audrey Tcherkov.
Rebonsoir.
Rebonsoir Audrey, Cyril Cuéno est avec nous. Bonsoir Cyril.
Bonsoir.
C'est
bienvenue.
Une première.
C'est votre première, soyez le bienvenu. Associé, directeur RH et transformation chez SIA Partners, Jean-Marc Sylvestre. Bonsoir Jean-Marc, éditorialiste Atlantico. Et Bruno Coquet, docteur en économie, chercheur associé à l'OFCE. Alors, comment est-ce que vous regardez, on vient d'en parler là pendant 10 minutes, ce machin, comme disait le général, voilà, ce futur gros organisme qui va remplacer Pôle emploi à partir du 1er janvier prochain, France Travail, qui qui, je rappelle la philosophie, c'est pas un Big Bang, mais c'est l'idée de faire mieux travailler les différents acteurs que sont Pôle emploi, les collectivités locales, les missions locales, les associations. Est-ce que ça sera aussi efficient que Pôle emploi? C'est toute la question, Audrey.
Moi, je vous donne mon avis tous les soirs, donc je vais laisser mes camarades s'exprimer. Mais enfin, est-ce que ça peut être moins efficient? Je pense que c'est surtout ça la question. Je ne pense pas. En gros, c'est un système qui marche mal, qui impacte donc négativement à la fois les demandeurs d'emploi et les patrons qui cherchent à recruter, notamment les patrons d'ETI. 2022, on a 300 à 400 000 emplois qui sont restés vacants. Et 2023, je vous rappelle que c'est 3 millions d'embauches prévues. Donc, est-ce qu'il fallait simplifier tout ça? La réponse est oui.
On en parlait pendant la pause avec vous, Cyril, cette formule d'Olivier Dussopt qui parle du service de public de l'emploi caractérisé par son atomicité et complexité. Voilà, c'est un petit peu à ça qu'on veut pallier finalement. Comment vous regardez ça?
Tout à fait. Effectivement, moi, ce qui me semble important de mettre en avant, c'est la complexité et l'ambition de ce projet. C'est quand même du jamais vu de tenter de regrouper un certain nombre de dispositifs pour créer finalement une chaîne plus efficace avec cette notion de guichet unique là, que vous évoquiez tout à l'heure, mais dans laquelle il faudra être très vigilant par rapport à la capacité de créer un dispositif efficient et surtout réactif et réactif par rapport à ce marché de l'emploi, par rapport à ce contexte de pénurie des talents. Il va falloir avoir cette proximité avec l'ensemble des acteurs concernés par ce sujet de l'emploi pour proposer réellement des solutions. Voilà. Et quand on regarde toutes les missions qui sont énoncées, les nouvelles missions, quand on voit ce sujet aussi de création de référentiels communs, quand on voit aussi, quand on rentre dans le détail, le sujet de l'évolution très significative des systèmes d'information, on est devant quand même un projet monstrueux.
Ça veut tout dire, voilà. Non, c'est comme la fusion des NPE, c'est dit dont on a parlé, ça va mettre du temps à se déployer.
Mais non, mais alors, je ne suis pas tout à fait d'accord, Cyril, parce que quand on regarde justement le système tel qu'il existe aujourd'hui, il est d'une complexité sans nom. On a d'un côté les départements qui s'occupent de l'insertion, les régions qui s'occupent de la formation et Pôle emploi qui s'occupe des chômeurs. Donc là, justement, l'idée, c'est de simplifier tout ça, Jean-Marc.
Oui, mais je n'ai pas le sentiment qu'on va simplifier beaucoup de choses, parce qu'on va regrouper des choses qui existent et qui sont déjà très, très complexes. Je n'ai pas compris qu'on en supprimait dans le.
On passe, à un guichet unique au lieu de 25 qui répondent à la moitié du problème.
Comme ça, c'est quelques doublons par-ci par-là.
Oui, mais il va y avoir quand même un certain nombre de doublons. Non, il faut pas regretter cette initiative, parce que ça met le travail au centre du débat. Et ça, c'est très important. Mais il faut pas se faire d'illusions sur la capacité de l'État et des pouvoirs publics à régler le problème. D'ailleurs, l'État et les pouvoirs publics n'ont jamais réglé ce problème. Parce que moi, je vais vous raconter une anecdote. Passé la plupart de ma carrière à une période, à la fin des Trente Glorieuses, où on était dominé par le chômage. C'était l'angoisse. On avait cette épée de Damoclès sur la tête. C'était angoissant. Ça impactait toute notre vie privée, notre vie familiale, notre vie matérielle. Il y avait le problème. Donc, il fallait faire des études, il fallait faire un certain nombre de choses. On avait les chances. Mais on n'a jamais trouvé beaucoup d'aide du côté soit de l'éducation nationale, soit des organismes d'État.
Oui, mais là, en l'occurrence, on a un problème
inverse. C'était tellement compliqué qu'on s'habitue à un taux de chômage de 8-9%. Et c'était tellement compliqué qu'un jour, un président de la République, ou à moins que ce soit son premier ministre, je pense à François Mitterrand et à Lionel Jospin, à la télévision, en 20h, a dit, écoutez, sur le chômage, franchement, on a tout essayé. Eh bien, franchement, ce jour-là, vous aviez des bandes de jeunes qui, comme moi, se disaient, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Enfin, c'est pas là le problème. Et puis un jour, moi, j'ai vécu quand même, j'ai réussi à vivre à peu près correctement, et un jour, on a vu le chômage baisser. On a vu la mer se retirer, la grande marée se retirer. Puis on a vu les cadavres qui étaient restés d'ailleurs entre-temps. Et on l'a vu dans les années 2000. Mais ça n'a pas été du fait de l'État, ça a été du fait des entreprises qui se sont mises à embaucher parce que, par une conjonction de facteurs.
Non mais là, on a le problème inverse, et on a une pénurie de main-d'œuvre.
Là, on a aujourd'hui, on se retrouve en pénurie.
Mais l'État peut faire ça peut-être.
C'est l'État, c'est les entreprises qui ont... Oui. Et vous savez, la deuxième chose que je voulais vous dire, ce que je trouve intéressant dans l'humain, c'est qu'on va associer beaucoup plus qu'auparavant tout ce dont vous avez parlé, plus les syndicats. Parce que les syndicats ont beaucoup participé
et donc
à la prénégociation.
Ça, c'est une bonne chose.
Et ça, c'est une bonne chose. Voilà. C'est le plan Berger. Alors, et ça, c'est une bonne chose. On pourrait ajouter de faire participer les acteurs privés du marché de l'emploi qui font un travail formidable. Manpower, Adecco, les chasseurs de têtes, tout ça, ils font ce travail.
À vous entendre, ça va virer, ça risque de virer un petit peu à l'usine à gaz, si je résume.
Bon, il a quand même terminé par une note positive.
Oui, quand même. Bruno, on a une minute avant la pause, on y reviendra. Mais dites-nous, comment vous regardez ça, vous? Est-ce que vous dites, ah, voilà quelque chose qui va peut-être fonctionner plus efficient que Pôle emploi, finalement?
Alors, mon premier point, la loi Plein emploi est devenue une loi France Travail. Deuxième point, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on a besoin d'une loi pour faire travailler ensemble des administrations.
Oui, je suis d'accord.
Parce que c'est un problème de procédure, d'échange de données, d'échange de bonnes pratiques, d'homogénéisation de la réception dans des guichets qui existent.
Un logiciel marchera très bien.
J'ai du mal à comprendre pourquoi, là, on a un gros machin qui fonctionne mal depuis Paris, on va avoir un plus gros machin géré depuis Paris aussi.
C'est ce que disent les élus locaux. Hein. Il va on est en train de recentraliser tout ça, finalement.
Oui,
là.
Non, mais le point, du coup, je sais bien ce que je dis, géré depuis Paris. Et quand on fait des économies d'échelle, normalement, on fait des économies. Là, ça va coûter 2,5 milliards de plus par an, d'après le rapport Guidi.
Oui.
Un peu plus.
Non, et étalé sur 3 ans.
Oui, oui, mais enfin bon... En tout cas, ça va coûter plus cher. Quand on fait une réforme structurelle qui gagne en efficacité, on ne s'attend pas à ce que ça coûte plus cher, mais moins cher. Sinon, on voit bien qu'on a un petit souci quelque part. Après ça, on peut voir aussi que le chômage a baissé depuis 5 ans, depuis 2017, depuis 2019. Oui. Si on prend les deux EFM, c'est-à-dire les gens qui sont inscrits, les deux EFM A, celles qui sont suivies par Pôle emploi essentiellement, ils ont baissé de 20%. Est-ce que la qualité du service a augmenté de 20%?
Non.
Il y a plus de temps disponible.
Non, mais vous êtes très rabat-joie tous les trois.
Mais toujours, Audrey.
À vous entendre, donc c'est pas gagné. 18h30, on marque une petite pause pour faire le rappel des titres et puis on y revient dans un instant, on va parler de la réforme du RSA controversée. Et puis question, est-ce que c'est ce machin qui va nous permettre d'aller chercher le plein emploi en 2027, 5%. On voit ça dans un instant.
À tout de suite.
Good evening business, le débat.
Ça repart avec Audrey Tcherkov.
Rebonsoir.
Avec Cyril Cueneau, avec Jean-Marc Silvestre et avec Bruno Coquet. Bon, tout le monde a l'air rabat-joie, donc vous y croyez dur comme fer.
Alors,
travail, vous.
Alors, dur comme fer, non, mais en tout cas, j'y crois, en effet, et j'assume. Dire. Non, mais je vous rappelle quand même qu'en France, on a 7 recrutements sur 10 qui se font dans des entreprises de moins de 10 salariés. Donc, ça veut dire quoi? Que ces entreprises, elles ne sont pas équipées de super DRH pour déchiffrer la complexité du système. Et il me semble que la promesse de France Travail, c'est justement de réussir à les accompagner et de simplifier le back-office. Et ça me semble, en effet, être plutôt très positif.
D'accord avec ça, Cyril?
Alors, tout à fait.
Voilà
une note positive.
Voilà, y arrive.
Mais effectivement, il va falloir bien travailler sur ce process qui va être en capacité de délivrer cette valeur opérationnelle au bénéfice notamment de ces ETI. Ça, c'est un premier élément. Et puis, le deuxième élément, parce qu'on parle beaucoup et essentiellement des 7% restants, qui correspondent à une population qui est une population complexe.
C'est du chômage structurel de longue date, en partie. Quoi.
Exactement. Voilà. Et quand on voit qu'effectivement, si on prend le RSA, 7 ans après inscription, on a encore 40%.
Justement, on va en parler. Oui.
On en parlera certainement tout à l'heure. Ouais. C'est un élément à prendre en compte dans la capacité à pouvoir être en proximité de ces populations qui peuvent être dans des situations précaires, qui peuvent être aussi des populations à addiction. On sait aussi que ce sont des populations qui ont des problèmes aussi de connexion, de connectivité par rapport à la réalité de ces entreprises. Et puis, c'est une population peu mobile, souvent mal logée et avec qui peut avoir aussi des problèmes de garde d'enfants. Donc, au regard de ça, et ce qu'on disait tout à l'heure, l'approche sur une vision effectivement plus processus que procédure, là, c'est le consultant qui parle, semble essentielle pour éviter de juxtaposer des dispositifs qui auront du mal à redescendre au plus près du terrain.
Laissons la chance au produit.
Oui, non, je pense que vous avez mille fois raison. Et je me suis demandé si le but de l'opération, c'était pas justement d'essayer de digérer le problème du RSA, qui est vraiment une épine dans le pied du système social français. Et je crois que ça va permettre d'embarquer un certain nombre de gens dans le RSA pour les rebrancher
Très bonne transition.
Justement.
Très bonne transition.
Oui, mais je ne peux pas terminer là.
Bah non.
Bon.
Non, mais vous avez l'occasion. Non, mais on revient. venir justement à la réforme du RSA, voilà, qui fait partie du projet avec cette mesure très controversée, c'est celle du fameux contrat d'engagement, évidemment.
Exactement, avec l'obligation donc d'effectuer de 15 à 20 heures hebdomadaires d'activité, alors que ce soit une immersion en entreprise, une remise à niveau ou une aide à la rédaction d'un CV. En tout cas, pour Eric Woerth, il faut une contrepartie à l'aide financière et on l'écoute tout de suite.
Il y a dans cette loi travail la nécessité pour les personnes qui sont au RSA, et le RSA est un modèle de protection, mais aussi un modèle d'intégration. Mm-hmm. Donc il y aura des mesures plus fermes sur la réintégration.
Quel genre de mesures,
adaptées au profil des gens. Il y a 20% de gens qui sont au RSA et qui 6, 7 ans, 8 ans après, ils sont encore. Mm-hmm. Donc c'est une trappe aussi, à un moment donné, à misère. Il y a inemploi, il y a inactivité. Il y a beaucoup de personnes, 20, 25%, 30% dans certains départements qui touchent le RSA et qui n'ont pas de suivi.
Est-ce qu'il faut une contrepartie? Donc, est-ce que ce contrat d'engagement se justifie pour vous?
Je pense qu'il faudra effectivement une contrepartie de façon à pouvoir responsabiliser à la fois ceux qui donnent, les pouvoirs publics, et puis surtout ceux qui en bénéficient. Mais ce qui est important dans ce que l'on est en train de nous présenter, c'est qu'en fait, il y a deux problèmes. Il y a un problème d'adéquation entre l'offre et la demande au niveau des emplois classiques, c'est-à-dire du chômage. Et je pense que l'État, et c'est pas tellement son rôle d'intervenir là, à ce niveau-là. Les acteurs privés sont parfaitement capables de le faire. Les entreprises sont parfaitement capables d'avoir des conseillers en formation, en chasse de tête, en recherche et tout ça. Ils le font. Mais il y a un deuxième problème, c'est un problème social, qui concerne les 4 à 5 % de chômeurs que l'on a depuis la nuit des temps et qui n'ont ni job, ni famille, ni formation, ni projet, qui sont des ninis. Rien. Donc, comme on dit
les fameux nids. Voilà,
et ça, c'est un problème social. Parce que c'est pas un problème c'est un problème d'emploi, mais c'est un problème de l'éducation nationale. Vous avez une partie de ces gens-là qui ne lisent pas, qui n'écrivent pas, qui ne lisent pas le français, qui n'écrivent. Mais donc il faut reprendre tout à zéro. Donc il va bien falloir un accompagnement, mais il va falloir aussi se bouger pour essayer de leur trouver une activité qui les brancherait sur la vie.
Vous avez vu la polémique engendrée par cette notion
c'est
de contrat
social.
D'engagement.
C'est du social.
Bruno Coquet.
Moi, ce que je crois, c'est qu'il y en a déjà dans la loi sur le RMI qui est.
C'est ce que rappelle Olivier Dussopt.
Ben oui. Ouais. Il y avait déjà un engagement à une activité, enfin et en tout cas à rechercher un emploi. Donc ça existe déjà. Après, le point France Travail, c'est comme vous faisiez remarquer, les 2,1 millions de chômeurs BIT qui restent, c'est quand même les plus durs à insérer sur le marché du travail. Pôle emploi n'y arrive pas. Là, il va récupérer une population plus difficile.
Donc, qu'on va intégrer dans les chiffres du chômage, entre parenthèses.
Comment voilà.
Qu'on va intégrer dans les chiffres du
Alors,
chômage.
Alors ça, c'est le point. Le chemin vers le plein emploi commence par une hausse du chômage. C'est ça qu'on va avoir demain.
Oui.
À la fois parce que en s'inscrivant au DEFM, les titulaires du RSA et peut-être leurs conjoints, puisque c'est familialisé, il ne faut jamais l'oublier. Donc on a plusieurs bénéficiaires. Hein, donc vont faire augmenter le nombre de gens à Pôle emploi, mais aussi ils vont se déclarer différemment à l'enquête emploi. Et donc tous les gens qui sont dans le halo, une partie va passer dans le chômage mobilité. Donc on va déjà avoir une hausse du chômage. Enfin bon, ça c'est anecdotique d'une certaine manière. Les chiffres risquent de devenir illisibles.
Pouvoir l'encaisser politiquement, quoi, c'est ça. Quoi, surtout.
Oui, mais surtout les chiffres vont être illisibles.
Ouais.
Et donc du coup, on ne va pas pouvoir facilement tirer le bon grain de livret pendant une petite année, en gros. Hein. Donc ça va être une difficulté. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même opérationnellement. Aujourd'hui, les CAF ont échoué.
Oui.
Elles avaient des moyens pour réussir. Donc ces moyens, je ne comprends pas comment ils sont rebasculés de l'autre côté. On ne le voit pas bien, ni dans le rapport Guillouis, ni dans le rapport de l'IGAS-IGF. Donc ça, c'est un point. Et puis après, opérationnellement, encore une fois, les chômeurs qui se débrouillent tout seuls pour trouver un emploi, les chômeurs indemnisés, ça leur coûte, Pôle emploi, 150 euros par mois et par chômeur. C'est comme si on allait chez le médecin tous les 5 jours. Au dernier pointage, un chômeur, quel qu'il soit, voit son conseiller Pôle emploi 1,8 fois par an. D'accord ? Donc on voit bien qu'on a un problème opérationnel qui est gigantesque. Et d'autant que la pression s'est relâchée sur Pôle emploi. La baisse du chômage, comme je le disais au paragraphe précédent, a été relâchée. Et on n'a pas vu une amélioration sensible sur tous ces points-là. On a délégué un certain nombre de gens vers l'aide aux petites entreprises, ce qu'il faut faire, effectivement, parce que ce n'est pas facile pour elles. Mais on voit bien que l'efficacité n'a pas été à la hauteur de la baisse du chômage.
Oui,
enfin, des moyens libérés
par le vrai. Ce que je ne comprends pas très bien, Bruno, c'est qu'à la fois vous dites que le I du RMI ou que le A du RSA, en l'occurrence, est présent, puisqu'on demande des contreparties aux gens, mais ce n'est pas vrai. vrai. Aujourd'hui, on donne entre 600, enfin jusqu'à 1300 euros par mois à des hommes et à des femmes à qui on demande en contrepartie quoi ? 3 contacts par an, mail compris. Et c'est pour ça qu'au final, en effet, 7 ans après l'entrée au RSA, on se retrouve avec 34% seulement des bénéficiaires qui sont retournés à l'emploi. Regardez ce qui se passe au Danemark. Au Danemark, quand on touche des minima sociaux, on a des contacts en permanence avec la personne qui nous suit et on a l'obligation d'envoyer 2 CV par semaine. Et ça marche.
Alors, c'est pas la seule loi qui n'est pas appliquée.
Qu'est-ce qu'on a raté, Cyril Couesnot, voilà, quand on fait ce constat?
Écoutez, je pense qu'on a peut-être raté la structuration de cet engagement réciproque. Hein, finalement, un engagement, c'est dans les deux sens.
Ouais.
C'est dans les deux parties.
Pas assez de fermeté, c'est ça que ça veut dire, en gros.
Pas assez de fermeté et pas assez de prise de conscience qu'il y a un appui, hein, qui est un appui proposé, mais qui nécessite... on est dans le sujet des droits et devoirs, en fait, hein, me semble-t-il. Et le deuxième élément, ce sont les compétences des acteurs de ce réseau qui accompagnera ces futurs employés, donc ces acteurs employables, notamment ces acteurs du RSA, pour trouver les leviers et les projets. Et c'est ça la grosse difficulté. Hein, et le risque qu'on évoquait tout à l'heure, c'est de rester dans une posture très administrative, très technique, drivé par une orientation assez politique.
Oui, alors, l'occurrence quand même, Jean-Marc, c'est 15 à 20 heures demandées, c'est des stages en entreprise, c'est le fait d'accompagner les gens pour qu'ils passent leur permis. En fait, on a simplement envie de voir que le contrat social en France repose sur la valeur travail.
Vous savez, c'est drôle, non, c'est pas drôle, mais la discussion que nous avons, nous aurions pu l'avoir il y a 15 ans, 10-15 ans, quand on se lamentait sur la pauvreté de l'apprentissage et des contrats en alternance en France. On considérait que la France était très en retard, et c'était vrai par rapport aux Allemands, c'était vrai par rapport à beaucoup de pays d'Europe du Nord notamment, et qu'on n'arrivait pas à brancher le système de l'éducation, le système d'apprentissage et les entreprises. Eh bien, je trouve qu'en 10 ans, on a fait un travail formidable, parce qu'on est devenu un pays où il y a enfin un corps d'apprentis qui est intéressant, dans tous les domaines d'ailleurs, hein, y compris...
On verra ce qu'il en restera quand il n'y aura plus d'aide publique, hein, attention quand même.
Il y a effectivement une aide publique, mais c'est une aide publique qui a une contrepartie, parce qu'il y a un engagement.
Oui.
À la fois de formation et puis de travail effectif. Un contrat en alternance... dans l'entreprise, dans le contrat en alternance, vous travaillez quand même dans la boîte. Hein.
Oui.
Donc, ça marche.
Quand
on veut, on peut.
Question, est-ce que le machin dont nous parlons ce soir, on est une minute avant la pub, pourra nous permettre d'aller chercher le plein emploi à 5% en 2027?
Qu'est-ce que le plein emploi?
Alors voilà la question. On va pas là.
Non mais.
Alors on a une minute.
Le plein emploi, c'est 5% de chômage.
Là, il faudrait 4 heures comme en philo, mais on les a pas.
5% de chômage, c'est facile mécaniquement.
Oui.
Ça veut dire on passe de 7 à 5, on enlève 600 000 personnes. Donc on crée 600 000 emplois. Mais sauf que c'est pas ça qu'on veut. Ce que l'on veut, c'est que les gens travaillent. Et donc du coup, c'est augmenter le taux d'emploi. Donc si on se dit on va rejoindre le taux d'emploi, je sais pas, pas très ambitieux, hein, mais on va dire des Danois, des Allemands, pas des Néerlandais qui sont les plus hauts en Europe.
Le taux d'emploi, on rappelle, c'est la proportion d'une
classe d'âge,
en âge de travailler, voilà, qui travaille effectivement.
Si on veut rejoindre, c'est-à-dire passer de 67 à 75% d'une classe d'âge qui travaille, le plein emploi, il faut créer à peu près 4 millions d'emplois. Et donc, du coup, on est entre 600 000 et 4 millions, sachant que nous, ce qu'on veut, c'est quand même le 4 millions, parce que c'est ça qui finance la protection sociale, c'est ça qui illustre des contreparties.
D'où le plan de réindustrialisation, notamment.
On ne les créera pas dans l'industrie. On ne créera pas 4 millions d'emplois.
Non, mais enfin, on va créer des emplois.
On a cette difficulté, c'est que du côté de l'apprentissage, qui a représenté 50% des emplois créés depuis 2019, ça va s'arrêter. Et donc, que les emplois aidés sont au plus haut niveau depuis toujours, on est au même niveau qu'en 97,
on va sabrer dans les emplois
où on avait 10% de chômage. Hein, donc, donc, du coup, tout ça rend plus difficile, plus haute la marge des 4 millions.
Mais donc, vous me dites qu'on n'y arrivera jamais.
30 secondes chacun pour vous. Qu'est-ce que c'est le plein emploi, finalement? Est-ce que c'est 5%, Cyril?
Alors,
chacun met ce qu'il veut. C'est très subjectif.
La question, elle est plutôt, c'est du quand.
Oui.
Du quand on va y arriver. Oui. Et par rapport à ce que dit Olivier Dussopt sur la progressivité de la mise en place, quand est-ce qu'on arrivera à un résultat? Et je pense que c'est ça qu'il va falloir définir, c'est ça qu'il va falloir mesurer, et c'est pas simple. Alors peut-être, en partant, et si on refait un peu l'histoire, hein, sur dans une logique qui est au-delà du mot progressif, expérimental et territorial. Hein, c'est peut-être comme ça qu'il faut le prendre sur des populations un peu ciblées.
Jean-Marc, c'est quoi le plein emploi pour
en 30
vous,
secondes, la seule chose que je voudrais vous dire, c'est qu'on oublie dans cette loi et dans cette discussion tous les personnels qui ne veulent plus travailler. Parce que vous avez aujourd'hui un mouvement chez les jeunes, mais aussi chez les moins jeunes, qui disent ras-le-bol, on ne veut plus travailler parce que le travail n'est pas intéressant, parce qu'il ne paye pas assez.
Jean-Marc, est-ce qu'on dit on ne veut plus travailler ou on veut mieux travailler?
Certainement que derrière, on a une envie de mieux travailler et de travailler différemment, mais ça n'est pas exprimé. C'est exprimé aujourd'hui comme un abandon. Et c'est pas seulement en France, c'est dans tous les pays occidentaux, notamment aux États-Unis.
Pour boucler la boucle,
vous êtes vrai,
dans cette loi, on attendait des mesures pour le travail des seniors.
Aussi.
En plus de Pôle emploi. Il n'y en a pas. Zéro. Le point, c'est que là où on se différencie des autres, c'est le taux d'emploi des seniors. De le taux d'emploi des seniors. Et donc, du coup, c'est là qu'il faut travailler. Voilà.
Et on ne le fait pas.
Les seniors, ça fait partie des points qu'on va discuter avec les syndicats.
Non, mais il y a des portes qui sont restées ouvertes pour les négociations syndicales. Et c'est très important.
Allez, on marque une pause.
C'est pas au Parlement que les choses vont se régler.
Allez, justement, on va parler du Parlement dans un instant, parce qu'il y a le projet Liotte qui arrive demain sur les retraites. On va en parler dans un instant.
On en connaît l'issue.
Ça s'annonce en couleur, en tout cas. Oui, mais on raconte ça dans un instant.
À tout de suite.
Good evening business, le débat.
Allez, 18h50. Je vous confirme, ça discute pendant la pause, évidemment, pardon, avec au moins autant d'ardeur.
On est mauvais élèves.
Non, mais c'est bien. On perd pas le fil. Le débat, quelques minutes encore avec Audrey Tcherkov, avec Cyril Cuenot, avec Bruno Coquet, avec Jean-Marc Sylvestre. Donc oui, grosse journée retraite avec l'examen du fameux projet Liotte demain à l'Assemblée. Ça promet de se faire dans une ambiance surchauffée, vu ce que nous a dit encore ce matin la présidente de l'Assemblée nationale.
En effet, elle était sur BFM TV et elle a dit très clairement elle va faire barrage à l'examen de la mesure qui est censée revenir sur le décalage de l'âge de départ en retraite de 62 à 64 ans. On l'écoute tout de suite.
Je suis présidente de l'Assemblée nationale. Est-ce que, objectivement, cet article 1 est constitutionnel ou pas? Est-ce qu'il constitue une charge? Oui. Est-ce qu'il doit être discuté? Non, parce que il n'est pas conforme à la Constitution. Moi, mon rôle en tant que présidente de l'Assemblée nationale, c'est de m'assurer que les débats à l'Assemblée, dans l'hémicycle, demain, sont conformes à nos règles.
Bon, alors on en pense ce qu'on veut. Toujours est-il qu'entre le 49.3, l'article 40 et ce qui va se passer demain, on n'aura jamais fait voter les députés sur le report de l'âge légal de 62 à 64 ans. Voilà tout ce qu'on peut retenir finalement.
Non, mais enfin.
Et on n'aura pas pour autant trahi la Constitution, parce qu'on aura fait tout dans la légalité.
Alors justement, précisément, en fait, l'article 1 du projet Liotte, il a été rejeté parce qu'il a été jugé inconstitutionnel. Oui. Donc c'est quand même donner gain de cause au gouvernement. Demain, il revient en effet dans l'hémicycle. On en connaît l'issue, d'après ce que vient de dire la présidente de l'Assemblée nationale. Alors il se peut qu'il y ait une motion de censure, mais en tout cas, a priori, c'est le champ du cygne pour les opposants au texte, à la réforme des retraites, et tant mieux, parce qu'il faut passer à autre chose. Il faut qu'on...
Je n'ai jamais entendu le gouvernement ou le président de la République s'opposer à ce qu'il y ait une motion de censure. Il peut avoir une motion de censure. Et les motions de censure qui ont été essayées, elles n'ont pas abouti. Donc,
bien sûr.
Je ne vois où est le défaut de démocratie et d'égalité. Enfin, la Constitution, elle est ce qu'elle est. On l'a respectée.
Bruno ? Ça vous laisse pas sur votre faim que finalement jamais les députés ne se seront exprimés sur le report de l'âge qui est comme la substantive.
Le gouvernement a très bien préparé son véhicule juridique. Super, on va passer entre les différents articles que vous avez cités à l'instant, plus celui-ci qui fait référence à la Constitution. Mais au bout du compte, pour faire passer quoi ? Un projet, au bout du compte, qui n'est pas terrible et bancal. Un projet paramétrique, bête et méchant. Donc, du coup, c'est un coup.
Et qui a réussi à convaincre, pourtant, Standard & Poor's. Non, mais okay. Bruno.
Oui, mais pas Fitch. Et donc, du coup...
Deuxième point,
on parle du point Liotte, qui est retoqué au motif, à juste titre, sur le fait que...
Ça coûte cher.
Il n'est pas financé. Hein, si on baisse l'âge de la retraite, le projet lui-même ne finance pas cette baisse à nouveau. Mais si on se met à vérifier que tous les projets de loi sont financés ex ante, on ne va pas en finir. Je rappelle que ces derniers jours, le Parlement n'a pas voté les comptes définitifs du budget de l'État pour la première fois depuis 1833, je crois, hein, ni en recettes ni en dépenses. Hein. Donc du coup, on voit bien qu'il y a un sujet qui est la sincérité des comptes publics. sans être un grand spécialiste de tout, je peux vous pointer dans n'importe quel PLF deux ou trois points qui sont parfaitement insincères et exemptés. Toujours. Est-ce que du coup, on va dire, c'est inconstitutionnel? C'est ça qu'on devrait dire, puisque c'est le motif de rejet de la proposition Liotte.
D'accord.
Donc, du coup, je pense qu'il faut faire attention à l'argument.
La Cour des comptes s'en fait régulièrement l'écho. L'abrogation des 64 ans aurait un coût de plus de 15 milliards d'euros au bas mot, a martelé ces derniers jours le camp présidentiel. Voilà aussi l'argument maître. Cyril Queneau, comment est-ce que vous regardez la séquence, vous?
Écoutez, moi, je rebondis sur ce qu'a dit Audrey. Hein. Je pense qu'il est temps de tourner la page.
Ouais.
Et se mettre dans cette position des conséquences dans la mise en œuvre de cette réforme pour les entreprises. Et c'est ça le sujet. Et nous, ce qu'on voit aujourd'hui, les entreprises ont attendu. Elles ont anticipé. Elles ont anticipé sur plusieurs sujets, sur bien évidemment l'emploi des seniors, sur la gestion des deuxièmes parcours de carrière associés, des deuxièmes parties de carrière, et puis finalement plus globalement sur le fait de repenser cette gestion des carrières en incluant cette composante. Voilà. Et nous le voyons parce que un certain nombre d'entreprises nous demandent, de manière directe ou indirecte, des interventions sur ces sujets, comme par exemple sur l'usure professionnelle ou la pénibilité. Donc un grand.
Ça, c'est les sujets dont on va reparler avec les syndicats prochainement. Donc les choses sont encore à inventer finalement.
Effectivement, les entreprises ont déjà anticipé. Ouais. Ont déjà anticipé.
Comme souvent.
Et alors les entreprises privées, mais des entreprises publiques aussi.
Ouais. Ouais.
Et c'est ça qui est vraiment intéressant à regarder. Et ce qu'il y a derrière, c'est aussi de mettre la question, on l'a évoqué tout à l'heure, de ce sens du travail et finalement du sujet aussi de la marque employeur, avec derrière l'attractivité, en disant finalement est-ce que cette réforme peut être un levier pour l'attractivité dans les entreprises, en disant on va employer plus longtemps, plus de seniors, où on sait qu'il y a quand même des expertises très intéressante liée à l'expérience de ces profils. Alors, pas pour tout type de métier. Effectivement, quand on a des métiers de main-d'œuvre, c'est peut-être un peu différent avec la pénibilité, mais on voit les entreprises qui ont d'où le regard, et c'est ça qui est vraiment intéressant, et tout simplement pour essayer de maintenir la compétitivité dans ce contexte de pénurie de talents.
Mais il faut s'y préparer, bon an, mal an, du côté des entreprises. Voilà, ça avance. Bon, on va suivre ça demain à la télé avec grand intérêt.
On va regarder ça avec beaucoup
spectacle.
De précision. Le spectacle, c'est le théâtre. On est au théâtre.
Oui, c'est
L'Assemblée
c'est
nationale,
ça.
C'est un peu le théâtre.
Ouais.
Et on paye le prix de ce théâtre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de majorité, et donc on est bien obligé de contourner.
Et pas de qualité
pas
de
majorité.
Non plus, hein.
Cela dit, on a un moment historique, c'est de réutiliser les syndicats. J'y tiens beaucoup parce que c'est les contre-pouvoirs dont on a besoin et qui a été absent. Les syndicats ont eu un comportement responsable et totalement raisonnable. Ils ont beaucoup plus que les partis politiques fait des propositions de réforme sur le système social et le système de gestion sociale.
Eh ben ça tombe bien, on commence à parler avec le gouvernement de nouveau. Voilà, pourvu que ça dire. Ben, c'est terminé pour ce soir. Merci beaucoup messieurs d'être venus sur le plateau de BFM Business. Cyril Péneau, associé directeur RH et transformation chez SIA Partners. Jean-Marc Sylvestre, éditorialiste chez Atlantico. Puis Bruno Coquet, docteur en économie, chercheur associé à l'OFCE. Merci beaucoup, messieurs.
Merci
à très vite. Bonsoir. Avec plaisir. Bonsoir. Pour nouvelles aventures. 18h56. De nous, on revient.
Eh bien, restez avec nous puisqu'on va parler semaine de 4 jours avec le DRH des DRH.
Et puis, bien sûr, le journal dans un instant. On revient, bien sûr, sur ce projet France Travail, sur les prévisions un petit peu plus optimistes de l'OCDE aujourd'hui. Ça bouge pas grand-chose. On passe de 2,6 à 2,7 sur la croissance mondiale. C'est pas grand-chose, mais comme on dit, toujours ça de prix, Bruno, finalement. Réjouissons-nous. Voilà le programme.
À tout de suite.
Good evening business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.